qu'il allait partir, qu'il ne fallait pas le retenir, qu'il ne sortirait pas du coma et que c'était mieux ainsi, car s'il se réveillait, il vivrait comme un légume et serait malheureux pour lui-même comme pour nous. Il ne voulait pas être une charge pour son entourage. Je pleurais sans que les autres passagers le remarquent. Je lui répondais que même s'il était dans un état végétatif, je l'accepterais, on le soignerait. Je ne voulais pas qu'il parte. Je suppliais Dieu de nous le redonner, de ne pas le prendre. Je lui disais que si David restait en vie, je passerais toute ma vie à servir autrui. Ce dialogue entre David et moi a duré tout le temps du voyage. Et finalement, j'ai accepté. J'ai dit à David que j'acceptais qu'il parte. Cette conversation semblait se dérouler ailleurs, dans un espace différent, un espace où l'on se trouvait seul, lui et moi. Je n'avais plus vraiment conscience des autres occupants de la voiture. C'est incroyable. Quelle expérience. Oui, à la lumière de ce qui s'est passé ensuite, ce dialogue a profondément bouleversé ma mère. Son récit se poursuit. David a cherché à me prévenir, à m'éviter un trop grand choc. Il était important pour lui que je comprenne que c'était mieux ainsi et que j'accepte son départ. En y repensant, c'est avec émotion que je comprends qu'il voulait me préparer. Dans cette situation si terrible, il ne pensait pas à lui, mais à ses proches qu'il aimait tant, comme il l'a toujours fait durant sa vie. À partir de ce moment, j'ai eu la certitude qu'il était là, avec moi, ailleurs, mais toujours présent. Le lien qui nous unissait n'est pas coupé, et il ne le sera jamais. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose après la mort. Mais depuis le départ de David, j'ai envie de prier, de développer ma spiritualité, de faire le bien, d'être meilleur chaque jour, et de m'accrocher à l'essentiel. J'ai réalisé que j'avais trop longtemps laissé dormir mon âme, et j'éprouve désormais un besoin pressant de la nourrir, de la réveiller. Le départ de mon fils chéri m'a forcé à me poser les bonnes questions, à réfléchir à mon parcours et à essayer de vivre pleinement chaque moment, à apprécier chaque instant passé avec mes proches. Je suis très ému par le témoignage de cette maman. Les larmes me viennent à l'évocation de cette phrase. J'ai réalisé que j'avais trop longtemps laissé dormir mon âme. Quel courage! Quelle force! Poursuivant notre discussion, Clément me précise que cette expérience fut spontanée et parfaitement inattendue. Sa mère était calme dans la voiture. Après ses heures de négociation avec David, elle a finalement accepté son départ. Elle m'a dit avoir été étonnamment apaisée une fois arrivée au chevet de mon frère. Au cœur de la nuit, la famille se réunit. Le lendemain, des amis proches se joignent à eux autour de David, toujours en soins intensifs. L'oncle des garçons, chirurgien lui-même, arrive de l'étranger. C'est un scientifique qui n'a jamais cru à l'hypothèse d'une vie après la mort. Pourtant, il va vivre, à son tour, un épisode inexpliqué. Clément se souvient. Pendant que nous pleurions tous, j'ai remarqué que mon oncle avait le visage illuminé et qu'il arborait un immense sourire.
Lui avez-vous parlé à ce moment-là?
Oui. Et à ma grande surprise, il m'a dit « Je le sens, il est là. David est avec nous. »
Vous a-t-il décrit ce qu'il voyait?
Il ressentait David sans le voir. Il n'avait pas de vision, mais percevait très fortement sa présence. Sur le moment, j'étais tellement submergé par ma peine que je n'ai pas vraiment prêté attention à cet événement. J'ai évoqué ce moment avec lui récemment et il m'a confirmé avoir eu ce ressenti. Ce fut pour lui si inattendu et puissant qu'il est maintenant persuadé de l'existence d'une vie après la mort.
Ah oui?
qu'un homme si sceptique, si cartésien et matérialiste ait complètement changé sa perception de la vie après cette seule expérience m'a beaucoup ébranlé. À l'hôpital, il était heureux quand tout le monde pleurait.
Clément n'a aucun bagage ésotérique ni éducation religieuse. Ces petites choses curieuses qui se produisent au milieu du cataclysme que sa famille traverse détonnent.
Encore dans la sidération, Clément ne se pose pas de questions. Ce n'est que dans les semaines suivantes qu'il y repense.
Qu'a donc bien pu vivre sa mère? Et son oncle, qu'a-t-il voulu dire quand il affirmait si bouleversé sentir David?
Sans aucune grille de lecture, Clément est plongé avec violence dans l'inconnu en même temps que l'indicible douleur du deuil brûle en lui
et enflamme tous les membres de cette famille unie. Car David va s'éteindre après une trentaine d'heures de coma.
Il était 20 heures quand notre frère est mort. Le travail de deuil allait commencer pour chacun d'entre nous, sans que jamais personne nous y ait préparé. Clément et ses parents logent chez Jonathan.
Tout le monde est sonné. Lorsque le lendemain matin Clément se rend dans la salle de bain, il remarque le scintillement étrange de la lampe, comme si elle fonctionnait mal. « Elle marche très bien », lui assure Jonathan.
Puis il prie son frère de le laisser seul.
« J'entends David. Laisse-moi me concentrer. » Clément est surpris. Le visage de Jonathan à cet instant ne laisse aucun doute sur le fait que quelque chose est en train de se passer. Mais Clément, trop tourmenté lui-même, n'attache pas plus d'attention que ça à la remarque de son frère.
Quelques instants plus tard, leur mère s'approche des garçons, le visage étonnamment apaisé, et les serre tous les deux dans ses bras. Elle explique qu'en se réveillant, elle a été propulsée dans l'horreur de la réalité et s'est effondrée en larmes. Submergée par le chagrin, elle a alors brusquement entendu David lui parler, comme l'autre nuit, dans la voiture.
« Maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Je suis bien. Je suis heureux. Je suis avec Eugène,
l'arrière-grand-père de sa mère.
On se revoit dans une seconde. S'il te plaît, occupe-toi de Jonathan et de Clément. Ils sont tellement bons. Aime-les 1000 fois plus que moi. Ils ont encore plus besoin d'amour maintenant que je suis parti. »
C'est ce qu'elle a fait immédiatement, remplie de force, en rejoignant ses deux garçons et en les prenant contre elle. Clément est dubitatif.
« Je ne voulais pas y croire. J'ai pensé qu'elle délirait. Mais elle avait l'air tellement sereine. »
Dans de tels moments, on essaie de survivre, de supporter la douleur. Il va falloir plusieurs mois, beaucoup de recherches et d'autres expériences pour que Clément commence à envisager rationnellement que dès l'instant de son arrêt cardiaque, puis après sa mort, David a bien tenté par tous les moyens de rassurer son entourage et de passer des messages.
Le surlendemain du décès, Lucille, la fiancée de Clément, le rejoint.
Cette jeune étudiante en design, sans éducation religieuse et tout à fait agnostique, n'a jamais rencontré David. Le soir de son arrivée, elle prend part au dîner rassemblant toute la famille chez Jonathan. Sont également présents autour de la table deux amis proches.
La discussion en vient à ces expériences étranges. Chacun s'interroge sur l'hypothèse folle que David ait pu essayer de communiquer après sa mort.
Lucille est sceptique.
Mais alors qu'elle est en train de manger, elle se sent soudainement épuisée.
Au même instant, elle perçoit que quelqu'un passe derrière elle en frôlant la chaise non occupée se trouvant à sa gauche. Lucille s'avance pour faciliter le passage tout en se retournant et se rend compte qu'il n'y a personne derrière elle.
La surprise se transforme en peur. Puis elle reprend ses esprits et s'efforce de trouver une explication logique, mettant cela sur le compte de la fatigue.
Lucille reste assez perturbée tout au long du dîner. Très sensible, elle est finalement soulagée de quitter cet appartement surchargé d'émotions. Clément et elle
vont dormir chez des amis. Au milieu de la nuit, Lucille se réveille sans savoir si elle est réellement éveillée ou encore en train de rêver qu'elle se réveille. En revanche, elle sent à nouveau cette force perçue dans l'appartement de Jonathan. Celle-ci la supplie de veiller sur Clément avec une telle insistance que Lucille promet de tout son cœur. Elle est alors envahie d'une immense gratitude. Un élan d'amour la submerge qui la pousse à se lever pour écrire. Cet élan la fait revenir complètement à elle et réaliser pleinement ce qui est en train de se passer. Rêve ou pas rêve, son esprit cartésien reprend le dessus et Lucille est prise d'une violente crise d'angoisse. « Elle a eu peur de mourir ?» m'explique Clément. « Elle a toujours eu des angoisses liées à la mort. » Lucille va parvenir à retrouver son calme et à se rendormir. Le lendemain matin, elle est choquée de découvrir un bloc de correspondance ainsi qu'un stylo sur le bureau en face du lit. Que s'est-il passé? Un rêve parsemé de morceaux de réalité entre deux mondes? Clément est marqué par le récit de Lucille. C'est la première fois qu'elle vivait ce genre d'expérience si puissante. Depuis, elle m'a confié croire en une forme d'au-delà. Elle a compris que l'essentiel n'était pas uniquement matériel, et essaie petit à petit de mener une vie plus spirituelle.
Juste à la suite de ces deux expériences?
Oui, elles l'ont profondément troublée par leur réalisme et leur intensité. Plusieurs personnes vont à nouveau évoquer cette sensation de présence. Le soir de l'enterrement, alors que le père de David est terrassé de chagrin, il ressent une immense chaleur envahir son corps. Un bien-être absolu l'habite pendant quelques secondes, qui lui redonne force et courage, tant sur le moment il sait que son fils se manifeste ainsi à lui. Durant la même période, alors qu'elle est en pleine discussion, sa mère sent David l'entourer de ses bras et l'étreindre avec douceur. Elle est certaine de la réalité de ce contact physique. Et le soir, se trouve incapable de dormir, si touchée d'avoir vécu ce qu'elle vient de vivre. Sereine, en paix, heureuse, aimée. De même pour Jonathan, qui, un soir, une dizaine de jours après l'enterrement, stupéfait par tout ce qu'il s'est passé durant les premiers jours, mais perclus de doutes, s'adresse à son frère pour lui demander un signe. Attentif, il ressent tout à coup un contact physique intense à l'épaule gauche. Une force le pénètre et glisse à l'intérieur de son corps. Durant quelques secondes, un courant vibratoire très intense le parcourt. Il ne tremble pas, se sent profondément bien, rassuré, et il s'adresse à David à haute voix pour lui dire combien il l'aime. Les expériences s'accumulent et tout vacille en Clément, qui est alors en proie à un colossal combat intérieur. Trop de faits s'ajoutent les uns aux autres, impossible, dérangeant sa vision du monde, et pourtant si indiscutable. Quand Jonathan, qui est si cartésien, m'a parlé de cette expérience, ça m'a beaucoup troublé.
Était-il certain que c'était lié à David?
Oh oui. Je lui ai demandé s'il était sûr de ce qu'il avait ressenti. N'était-ce pas le froid, un tremblement lié à la fatigue, autre chose? Il m'a assuré que ce n'était pas le cas. Lui, toujours dans le doute, était désormais persuadé que ce qu'il avait vécu était bien réel. Il était heureux et très apaisé.
Et vous, Clément?
Moi?
Vous est-il arrivé des choses de cet ordre?
Je pense. Quelques jours après la mort de David, je suis retourné au travail. Cela m'a permis de surmonter le drame en aidant d'autres gens à guérir du cancer. Un matin, j'ai ressenti une présence incroyablement puissante dans ma chambre, au pied de mon lit. Mais j'ai mis cela sur le compte de la fatigue. Je n'étais pas sûr.
C'est-à-dire?
Pas sûr de moi. Je doute. Est-ce que ce n'est pas moi qui fabrique ça? J'ai fait des rêves. Je me souviens d'un en particulier qui était d'une précision extrême. À nouveau, c'est arrivé à l'aube. Je suis dans mon appartement, Je vois David à la fenêtre, l'air triste, mais apaisé. Je sais qu'il est mort, et il le sait aussi. Je m'approche de lui et lui donne un cadeau que j'avais acheté pour son fils et que je n'avais pu lui donner à cause du drame. David semble alors tellement heureux. Puis je le prends dans mes bras. Je me souviens très bien avoir physiquement ressenti cette étreinte. Je le supplie en pleurant de désespoir. « David, ne pars pas, reste s'il te plaît. » Ça le rend triste. Il essaie de me rassurer et me murmure à l'oreille « La vie n'est pas que terrestre. » Et je me réveille en pleurs. Ce rêve était tellement intense. Clément ne peut réprimer ses larmes. À chaque fois que j'en parle, je pleure. Rien à voir avec les autres rêves. La vie n'est pas que terrestre. Plusieurs semaines après, Clément va vivre une expérience similaire à celle de Jonathan. Encore un matin, très tôt, alors qu'il se trouve entre le sommeil et l'éveil, il est subitement parcouru d'une sorte d'intense vibration. Ça a été extrêmement apaisant, pas du tout angoissant. Que ressentiez-vous ? Comme si quelque chose me parcourait. Jamais je n'avais ressenti cela. Et je me suis rendormi. Je n'ai pas réussi à me maintenir éveillé. Quand je me suis finalement levé, je me sentais un peu vaseux. Je savais que quelque chose absolument incroyable s'était déroulé et je me sentais comme dans un rêve étrange. Mais j'avais évidemment encore ces milliers de questionnements et de doutes.
C'est-à-dire?
Et si c'était un hasard? Et si c'était juste parce que j'avais froid? Et si ces communications n'étaient que des hallucinations collectives liées à la tristesse?
Avez-vous trouvé réponse à vos interrogations?
J'ai beaucoup lu, parce que j'étais quand même sérieusement perturbé par tous ces phénomènes dont mes parents, mon autre frère, certains amis et moi-même avions été témoins. Alors oui, certains ouvrages ont mis des mots sur ces manifestations incroyables. J'en ai parlé à ma psychiatre aussi. Elle a une solide formation scientifique et a été formée par le docteur Servan-Schreiber.
Qu'a-t-elle dit ?
Elle m'a rassuré. Elle-même a vécu un VSCD. Elle m'a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'hallucinations. Et tout doucement, j'ai commencé à accepter l'idée que tout cela n'était pas le fruit de l'imagination.
Clément va revivre une nouvelle fois ce curieux phénomène lors duquel il se sent envahi par la présence de son frère.
Son esprit de médecin l'incite à cette occasion à essayer d'analyser ce qui se passe en même temps qu'il le vit. Je voulais être sûr que mon corps ne tremblait pas. C'était une vibration intense, mais sans aucun mouvement de mon corps, comme si mon âme entrait dans une phase vibratoire induite par la conscience de mon frère. Oui, pour moi, cette hypothèse est aujourd'hui la plus logique, la plus rationnelle en fait. David essayait de me rassurer, de me dire qu'il allait bien et qu'il était toujours là, sous une autre forme. J'ai l'impression qu'il a essayé de passer des messages via plusieurs canaux différents, sa mort ayant été extrêmement soudaine. Il veut nous dire qu'il va bien et qu'un autre monde existe. Il veut surtout qu'on arrête de pleurer, qu'on soit heureux et qu'on vive une belle vie. En ce qui me concerne, ça s'est toujours passé à l'aube, dans cette phase entre l'éveil et le sommeil. Probablement le seul moment où je suis réceptif.
En tant que médecin, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces expériences?
J'ai découvert que ce que nous avons vécu dans ma famille est loin d'être unique. Cela ne doit pas être tabou, et l'on doit pouvoir en parler sans que ces événements soient minimisés. Autrefois, on qualifiait ces phénomènes de sorcellerie. La science aujourd'hui voudrait parler d'hallucination. Mais il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Ces expériences extraordinaires ne peuvent être balayées d'un simple revers de main. C'est pour cela que nous avons accepté de témoigner. Si cela pouvait permettre d'aider des gens endeuillés, ce serait formidable. Chapitre 24. Nous avons déjà franchi la frontière. Pourquoi emploie-t-on encore, dans un sens péjoratif, le terme « surnaturel » pour qualifier ces expériences? Pourquoi, de façon quasi systématique, les récits évoquant des sensations de présence, des perceptions, des rêves de rencontre, etc., sont-ils encore accueillis avec suspicion, inquiétude, moquerie ou condescendance? Sérieusement, pourquoi? J'ai toujours aimé les frontières, les franchir surtout. La première fois que cela fut décisif pour moi, j'avais 30 ans de moins. Quittant clandestinement le bazar médiéval d'une zone tribale pakistanaise, je monte à l'assaut d'un col qui, une fois atteint, me mènera vers l'Afghanistan en guerre. La gorge sèche, le sang me martelant les tempes, je transpire en avançant au milieu d'un capharnaüm infernal. Combattants, armes, tout passe par cet endroit pour rejoindre le maquis tenu par les résistants afghans. Bientôt, je parviens en haut du col, et le paysage se révèle dans toute sa splendeur. Un horizon de montagnes blanches, l'immensité sauvage d'une terre nouvelle. Mes yeux parcourent cette étendue où pas un signe ne marque la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Elle passe pourtant là, quelque part dans ces collines, invisibles. La frontière entre la paix et la guerre. C'est souvent comme ça dans la vie. On ne voit pas les frontières, car on pense vivre dans un monde unique. On ne réalise les avoir franchis qu'après coup. La frontière que ces expériences de contact après la mort nous invitent aujourd'hui à dépasser est celle d'un certain nombre de préjugés pseudo-scientifiques. La réalité est uniquement matérielle. Toute conscience cesse après la mort du corps physique. Il n'y a rien après la mort, etc. Ces assertions sont aujourd'hui sérieusement remises en question. Si cramponnées, ne témoignent pas d'une attitude scientifique, mais d'un dogmatisme irrationnel. Dans ce domaine de la conscience, quelque chose a radicalement changé. Un nombre stupéfiant de personnes témoignent à travers le monde de plusieurs types d'expériences qui convergent toutes dans le même sens, celui de la survie d'une forme de conscience après la mort. Dans le cas des contacts post-mortem, nous avons vu qu'il ne s'agit pas d'hallucinations ni d'un mécanisme psychologique imaginaire. On a affaire à quelque chose de réel. Pourquoi alors parle-t-on encore de surnaturel, de paranormal? Parce que ça résiste. C'est automatique dès lors que nos habitudes sont bousculées et que l'inexpliqué surgit. Cette résistance cache une volonté de contrôle. L'inattendu étant inconfortable, une sorte d'instinct de conservation nous fait spontanément réagir face à lui par une attitude de fermeture, de rejet, de fuite, de peur. Pourtant, l'inattendu peut être un miroir, le révélateur de nos craintes, une alternative à nos certitudes. Le contrôle est une illusion à laquelle on s'accroche. Alors, même si l'inconnu est bienveillant, il terrifie de prime abord, comme un sauveteur effraiera l'oiseau dont il veut sauver la vie après une marée noire. Autour de nous vibrionne un vaste monde invisible. Ce monde est peuplé d'esprits de toutes sortes, d'énergies, de guides, d'anges gardiens et aussi de celles et ceux qui nous ont quittés. Certains de ces êtres s'adressent à nous sans qu'on les entende. Pourtant, ils nous parlent sans cesse. Ils offrent leur aide ou demandent la nôtre, mais à ces murmures si subtils et délicats, nous demeurons sourds. Nous résistons à ces rêves, à ces intuitions, à ces sensations parfois incongrues, car nous avons l'impression infantile de perdre les commandes. Comme si tenir les commandes de notre vie allait être la garantie d'une existence heureuse. Et si c'était plutôt l'inverse? Certes, il importe de se prémunir de ce qui pourrait devenir envahissant. mais nous rejetons tout sans distinction, le parasite comme l'ange, car nous ne savons reconnaître l'un de l'autre. » Le psychiatre David Servan-Schreiber, que j'ai eu la chance de côtoyer, m'avait confié à plusieurs reprises combien notre société en général, et la médecine en particulier, gagnerait à s'ouvrir aux techniques alternatives, à la médecine énergétique. Ne pas en comprendre les mécanismes, disait-il, ne devrait pas nous dispenser de faire appel, lorsque cela est possible, à des techniques non conventionnelles. Il me l'avait réaffirmé une nouvelle fois lors d'un entretien que nous avions tourné pour « Enquêtes extraordinaires ». Nous évoquions alors le cas de ces hôpitaux au sein desquels ce sont des médecins qui conseillent à leurs patients le recours à des barreurs de feu. En effet, dans le cas de traitement de cancer notamment, l'intensité de la radiothérapie peut provoquer des effets secondaires sévères, comme des brûlures de l'épiderme. Or, de nombreux barreurs de feu obtiennent dans ce domaine des résultats très positifs en limitant considérablement ces effets secondaires invalidants. En parlant de la pratique de l'un de ses amis radiothérapeutes qui conseillait ce type d'ouverture, David avait conclu «